Utopod 007, 16 juin 2007, un hiver avec Fermi de Hugo Bellagamba. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 7e numéro d'Utopod, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Mon nom est Marc Tiefenauer et je coproduis cette émission avec Lucas Moreno. Pour en savoir plus sur notre concept, rendez-vous sur www.utopod.com. Aujourd'hui, roulement de tambour, nous vous proposons notre premier texte inédit, Un hiver avec Fermi de Hugo Bellagamba, space op eschatologique à vous faire froid dans le dos. Hugo Bellagamba est né en 1972. Ce docteur en droit, maître de conférences à l'université de Nice, publie ses premiers textes à la fin des années 90 sous le pseudonyme de Michael Reiss, qu'il a depuis abandonné. Ses premières nouvelles et novellas sont publiées au Bélial dans l'anthologie Étoiles vives et chez De Noël dans l'anthologie Aventures lointaines. Il a publié d'autres nouvelles aux éditions Nestivecnan et Raphaël de Surti avant de coécrire avec Thomas D. L'école des assassins, roman sorti au Bélial. En 2003, il publie, au Bélial toujours, un recueil de trois nouvelles, La cité du soleil et autres récits héliotropes, où il décline ses thèmes favoris, utopie, uchronie et exploration stellaire. La même année, il coécrit un nouveau roman avec Thomas D., Le double corps du roi, édité cette fois-ci aux éditions Nemos, puis repris en 2007 chez Folio SF. En 2005, sa nouvelle « L'Apopis républicain » est au sommaire du 6e volume de la grande anthologie de la science-fiction, dirigée entre autres par Gérard Klein. La même année, sa nouvelle « Chimère », sortie dans le numéro 36 de la revue française Bifrost, lui vaut les prestigieux prix Bob Moran et Ronnie Henné. Hugo Bellagamba est également critique littéraire, essayiste et anthologiste. La lecture d'Un hiver avec Fermi est assurée par Sylvain Demierre. Sylvain est capable de générer des bulles d'espace-temps car en dehors de son métier d'ingénieur et de ses responsabilités de père de famille, il écrit, se passionne pour le graphisme, œuvre comme illustrateur et se paie encore le luxe de composer de la musique électronique. Il est l'auteur de visuels en 3D, notamment de celui qui accompagne l'article de présentation de notre première émission. Vous trouverez sur utopod.com l'adresse de son site personnel. Et maintenant, cramponnez-vous à la terre, commandez une dernière bière au pub du Cheval et de l'Écuyer et place à la littérature.
Un hiver avec Fermi, de Hugo Bellagamba. Si vous entendez ces mots, c'est que vous participez d'une certaine forme de vie, et d'intelligence si vous les comprenez. La moindre des choses est d'abord de me présenter. Je suis historien, et je n'ai pas de nom. Ni d'œuvre d'ailleurs, m'étant jusqu'ici contenté de rassembler les sources relatives à mon sujet. Je suis humain, mais ne possède pas de corps. De loin, vous pourriez me confondre avec le grand trou noir qui dévore le cœur de la Voie lactée et qui la maintient en rotation constante. De près, vous réaliseriez que ce monstre gravifique sert juste de réceptacle à ma conscience. Pour oser la métaphore, je tiens la chair d'un amphithéâtre dont les bancs sont surchargés de photons captifs. Et mon cours durera jusqu'à ce que sonne la cloche de l'entropie. Quitte à choisir, j'aurais préféré avoir un nom plutôt qu'un corps. J'aurais opté pour celui d'Arnold Toynbee, penseur du XXe siècle selon l'ancien compute terrestre. Il disait que l'historien est toujours l'esclave de son époque, comme le potier l'est de l'argile. C'est là une vérité première de la recherche. Pourtant, au risque de vous surprendre, j'affirme être le seul historien ayant jamais atteint l'objectivité. Oh, je n'ai pas de mérite. Je n'appartiens à aucune époque, à aucune génération. Je ne sais pas d'où je viens, ni qui sont mes créateurs. J'ai pris conscience de mon existence le 31 décembre de l'an universel 1 à 23h59min 59 secondes et 46 centièmes. J'ai commencé mes travaux dès le centième suivant. Mon champ de recherche s'étend des premières décennies du XXIe siècle, selon le compute terrestre, jusqu'à la disparition totale de l'humanité, il y a de ça quelques semaines universelles. Mon corpus est réuni, la compilation des données terminée. Le moment est venu de pétrir l'argile des événements et de mettre en lumière les grandes structures de l'aventure humaine. Tout a commencé par la découverte des astronomes Mayor et Queloz en 1995. Pour la première fois, l'humanité avait la preuve de l'existence d'une pluralité de mondes. La détection en masse de planètes extrasolaires avait provoqué un engouement populaire qui s'était tari dès le milieu du XXIe siècle. Rien de très excitant n'était sorti de la nouvelle astronomie. La galaxie, l'univers sans doute, était littéralement grêlé de planètes. Acné purulente sur le visage des étoiles adolescentes, les pustules gazeuses et les bubons telluriques proliféraient. Partout où les télescopes se braquaient, installés sur la Lune ou au point de Lagrange et ainsi libérés des aberrations atmosphériques, les super-terres faisaient osciller leur étoile mère ou transitaient devant sa lumière. Il y avait aussi les naines brunes ou grises errant dans la nuit telles des dandys éméchés. De la vie en pagaille, des algues de ci de là, parfois des êtres multicellulaires, mais aucun contact avec une civilisation avancée ou une intelligence circumplanétaire. Les hommes avaient envoyé des recommandés tous azimuts sur toutes les longueurs d'onde possibles et n'avaient jamais reçu d'accusés de réception. Juste cet exaspérant bruit de fond produit par le rayonnement fossile, babillage d'un univers trop jeune ou déjà sénile. Ce silence eut un effet désastreux. L'humanité, orpheline de conflits, incapable de progresser sans s'opposer, vit son identité se déliter. Au début du XXIIe siècle, l'ensemble des mondes humains, de Ganymède à la Lune, en passant par les cités martiennes, entra dans une période de crise. Sur Terre, la chute fut pire que n'importe où ailleurs. Le suicide devint le dernier acte de rébellion contre une société à la dérive. La population mondiale tomba à 2 milliards d'individus, dont la majorité vivait en altitude, en petites unités patriarcales. La Nouvelle-Océanie, entièrement formée de cités sous-marines, développa un modèle de démocratie coranique qui faillit jouer le rôle de fédérateur avant de sombrer dans une nouvelle forme de fondamentalisme. Les colonies sélénites et vénusiennes basculèrent dans l'anarchie. La République de Titan, elle, s'effondra, victime d'un conservatisme stérile. Puis, à l'aube du XXIIIe siècle, de nouvelles écoles de pensée se développèrent. Les horizontalistes considéraient que les sciences et les arts n'avait fait qu'éloigner l'humanité de son bien-être originel, lui donnant à contempler un univers énigmatique, source d'inquiétude. Ils enseignèrent que tout homme devait se contenter de ce qu'il avait sous les yeux. Ils prêchèrent une ascèse pastorale. L'ignorance, protectrice, fut érigée en dogme. Les fictionnistes, eux, se focalisèrent sur l'imaginaire, fondant leur doctrine sur la redécouverte d'œuvres littéraires datant des XIXe et XXe siècles, ils firent renaître le mythe de la frontière et retentir l'appel du merveilleux. Par leur intermédiaire, les hommes retrouvèrent le goût du défi. Leurs disciples tournèrent à nouveau leur regard vers les étoiles et virent les mondes lointains, exotiques. La figure de l'explorateur s'opposa à celle du cultivateur. Les nouveaux horizons vinrent concurrencer l'attachement au pays. Les fictionnistes finirent par l'emporter et une bonne partie de l'humanité s'exila vers les planètes extrasolaires. La dissémination commença le 31 décembre de l'an universel 1 à 23h59 et 57 secondes exactement. À ce stade de mon récit, je dois adopter définitivement le compute universel. Il est vain de vouloir compter l'âge de l'univers en siècles, comme il est stupide de calculer les distances qui séparent les étoiles en kilomètres. Les chiffres sont si élevés qu'ils en perdent instantanément toute signification. Les jours universels et les parsecs restent donc les mesures idoines. Ainsi, permettez-moi de vous rappeler que dans l'année qui s'ouvrit au commencement des temps, le système solaire ne se forma que le 13 septembre. Et l'homme lui-même n'apparut que dans l'après-midi du 31 décembre. Toute l'histoire de la civilisation, depuis les premières pyramides jusqu'à l'effondrement de l'ordre capitaliste global, ne prit en vérité qu'une petite dizaine de secondes universelles. Début, 23h59min48s. Dissémination, 23h59min57s. Sans doute le fameux paradoxe d'Enrico Fermi ne vous est-il pas familier. Formulé bien avant le début de la dissémination, il joua un rôle déterminant dans cette phase particulière de l'histoire humaine. Partant du principe que le Soleil était une étoile de type très répandu, ce physicien italien avait postulé que l'humanité devait être une espèce banale dans la galaxie. Il devait donc exister un nombre important de civilisations, apparues avant l'humanité et très en avance sur elle. Mais l'univers, qui aurait dû être surpeuplé, s'avérait désespérément vide. Les extraterrestres refusaient de se manifester. En bon physicien, Enrico Fermi reformula alors son raisonnement. Si la preuve de l'existence de civilisations extraterrestres ne pouvait être établie, c'est parce qu'elles n'existaient pas encore. L'humanité n'était peut-être que la première. Elle était arrivée trop tôt. Et si, à l'avenir, d'autres civilisations se déployaient dans la galaxie, il s'agirait de celles fondées par ses propres descendants. C'est l'hypothèse qui fut reprise par les fictionnistes. L'humanité enfanterait elle-même les extraterrestres qu'elle avait cherchés en vain. Et leur projet s'était concrétisé, un temps tout au moins. Les fictionnistes n'avaient pas compris une chose fondamentale. La durée des civilisations issues d'une vie organique ayant développé l'intelligence s'avérait terriblement courte. Elle se succédait à un rythme stroboscopique à l'échelle du temps universel. Elle n'était qu'écume mourlant les vagues, effet résultant des grandes marées stellaires, rien de plus. L'homme comprit que s'il voulait laisser une trace de son passage, il lui fallait non pas s'étendre, non pas accélérer, mais ralentir et, en définitive, se poser. Freiner, réduire la fréquence même de sa conscience jusqu'à frôler l'aphasie. Ainsi vis-je le jour, j'imagine, prototype hasardeux de conscience lente alors que l'univers fêtait sa première année. Mes premières secondes universelles, je les consacrais à observer les hommes disséminés. Un terme bien prétentieux pour désigner quelques centaines de colonies implantées sur des mondes périphériques rendus viables par leur industrie. Même s'il fut une impasse, le processus de terraformation entrepris par ces aventuriers restera dans ma mémoire comme une émouvante réalisation. L'art et la science s'étaient sublimés dans cette poétique de l'écologie assistée. Nulle part ailleurs dans l'univers, je n'avais contemplé un spectacle plus fascinant que ces calottes polaires en train de fondre sous l'effet de miroirs orbitaux, ces mers en train de renaître, ces lichens ultra-résistants, ces plantes produisant des gaz à effet de serre, ces vents artificiels s'affranchissant peu à peu des machines qui les produisaient, ces canalisations souterraines qui accéléraient les processus naturels de géothermie, ces astéroïdes tractés, concassés et réagglomérés afin de former des satellites géants propres à stabiliser le rythme des marées. Oui, la terraformation fut la plus belle rose dans le jardin de la nuit. Le 2 janvier de l'an universel 2, en fin de matinée, j'assistais à l'arrêt définitif de la dissémination. La communauté des mondes humains, baptisée le Commodus, entra à son tour dans une crise dont elle ne devait jamais se relever. Ayant atteint les limites de la bulle d'espace que ses capacités lui avaient permis d'occuper d'un rayon de 46 kiloparsecs, elle commença de régresser. Les techniques de rajeunissement qui impliquaient le remplacement standard du volume sanguin et des organes vitaux grâce au clonage des cellules souches avaient rapidement atteint leurs limites. Si l'espérance de vie de chaque individu avait décuplé, elle restait insignifiante au regard de celle qui aurait permis d'embrasser une plus vaste portion de l'univers. Les moyens de communication, eux, n'étaient jamais parvenus à cette instantanéité dont avaient naïvement rêvé les auteurs de science-fiction. Nulle encible, nulle épice n'avait permis de relier les rameaux d'une humanité distendue. Les régions les plus éloignées du Commodus perdirent le contact avec les super-terres du centre, qui finirent par s'organiser en une ligue obnubilée par la préservation de son mode de vie. Un courant néo-horizontaliste domina le débat politique au sein de la ligue, incitant les dirigeants à faire édifier un mur, psychologique autant que spatial, une ceinture démesurée destinée à les couper du grand extérieur. Une nouvelle fois, l'humanité se détourna du ciel profond. Elle n'avait pas su échapper à ses vicissitudes. Seule l'échelle avait changé. Ce que j'appellerais par commodité la contraction commença. Elle fut sensible dès le soir du 3 janvier de l'an universel 2. La Ligue laissa dépérir tous les mondes qui ne s'étaient pas dotés de gouvernements néo-horizontalistes auxquels, par l'acte de dévolution du 3 janvier à 14h50min 7/10, elle avait donné la gestion souveraine des ressources locales. Au matin du 4 janvier, le Commodus n'était plus qu'un souvenir, le symbole honni d'une arrogance passée. Lorsque sonnèrent 17h, la Ligue s'était réduite à une misérable fédération d'une trentaine de planètes. Les guerres femtomiques éclatèrent à 18h, opposant les mondes du cadran nord à ceux du cadran sud pour des questions de taxation des routes commerciales. À l'échelle du temps cosmique, ce conflit dérisoire dura 3,5 secondes universelles. Mais il fit des dégâts irrémédiables. L'utilisation de l'arme femtomique qui agissait sur les liaisons ordonnant les quarks ruina l'œuvre des terraformateurs. Les super-terres vaporisées, la voie lactée redevint ce qu'elle avait été avant l'homme. Une jungle sale, pourrissante, souillée de nébuleuses, d'étoiles avortées, de disques protoplanétaires mal formés. Un environnement impropre à l'épanouissement de l'intelligence. Jamais je n'oublierai l'infamie du 4 janvier de l'an 2 à 18h00min 03/50, lorsque, simultanément, 24 exomondes terraformés, représentant 39 civilisations et totalisant 119 milliards d'êtres humains, s'éparpillèrent en particules élémentaires. Ce fut le plus beau gâchis d'espace, de talent, de potentiel auquel j'eusse jamais assisté. Avant 19h, ce même jour, toute trace de l'humanité avait été effacée. Au matin du 4 février de l'an 2, en plein cœur de l'hiver, les galaxies du groupe local fusionnèrent. Avant le mois de mars, le berceau de l'humanité avait disparu. Il ne restait que moi. Gouffre ténébreux rehaussé d'étoiles, puits de science dont les patients travaux ne seraient jamais utiles à personne. Je m'aperçus que Fermi avait eu tort en définitive. Non seulement il n'y avait pas d'autres civilisations dans le vaste univers, mais celles nées de l'humanité n'avait même pas vécu assez longtemps pour se perpétuer. C'est à partir de ce moment-là, je crois, que je compris quel était véritablement mon rôle. L'histoire, au fond, si elle était mon argile, n'était pas une fin en soi. Au contraire, toutes mes connaissances accumulées n'étaient que le commencement. D'historien, il me fallait devenir passeur. Et, en l'absence d'auditeurs identifiables, il me fallait m'adresser à l'univers lui-même, alors qu'il glissait vers le printemps. Je devais lui conter l'homme, ce fruit hors saison qui avait mûri trop tôt pour être apprécié à sa juste saveur. Et qui sait ? Cette litanie que j'ajouterais au bruit de fond cosmologique pourrait bien attirer l'attention un jour. Une forme d'intelligence complètement différente émergerait peut-être au cœur de l'été de l'an 2 et serait séduite par mon chant bien avant la fin de la saison. Elle pourrait même décider de découvrir l'homme, pour son amusement ou son édification. Avec la conviction que tout était possible, le 10 février, je commençais donc à enregistrer, dans la texture même de l'espace-temps, mon récit plein d'amertume et d'amour. Et depuis, je le répète, inlassablement. Écoutez donc, ou passez votre chemin.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site www.utopod.com. Vous y trouverez des liens vous permettant d'acheter les ouvrages de nos auteurs et de satisfaire du coup votre besoin irrépressible de cellulose blanchie. Depuis notre site, vous pouvez aussi nous écrire et nous dire tout le bien ou le mal que vous pensez de nous. C'est aussi le moyen pour vous de nous révéler quels sont les auteurs que vous rêvez d'entendre sur Utopod. Rappelons qu'Utopod est un projet à but non lucratif. Nous travaillons de façon totalement bénévole et comptons sur vos dons pour faire avancer le schmilblick. En parlant de ça, nous tenons à remercier Gilles Pochon, notre premier donateur. Que son nom soit glorifié jusqu'à la 100e génération. Nous vous invitons à suivre son exemple en cliquant sur le pictogramme euro au bas de notre site. Merci d'avance. Comme vous le savez, l'âme du Utopod, ce sont ses auditeurs. C'est pourquoi il nous en faut plus, toujours plus, encore plus. Parlez-en autour de vous, faites-nous de la pub, expliquez aux gens comment Utopod a bouleversé votre vie, celle de vos proches, de vos animaux de compagnie, même celle de votre chef qui, de joie, en a profité pour augmenter copieusement votre salaire. S'abonner à notre podcast, c'est très simple. Allez sur www.utopod.com. Tout y est bien expliqué. Et n'oubliez pas de lire des auteurs francophones. Pour en découvrir, nous vous recommandons les revues françaises Bifrost, Ferries, Fiction, Galaxy, Lunatique, la revue belge Chimaera et, last but not least, la québécoise Solaris, la plus ancienne revue de science-fiction francophone encore active à ce jour. Elle fêtera en septembre ses 33 ans d'existence. Nous venons d'évoquer Lunatique, magnifique fanzine dirigée par Jean-Pierre Fontana. Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer la sortie, à la fin de ce mois, de son numéro 75, ainsi que d'un volume spécial consacré à Michel Demuth, écrivain, traducteur et éditeur français de science-fiction qui nous a quittés récemment, en septembre dernier. Sur ces mots, je vous laisse. Au revoir et à bientôt sur Utopod.